Au coin de la rue, il y a des gens qui cultivent l'extraordinaire au quotidien. Hors système, hors normes, ils mènent leur révolution, la nôtre aussi, celle de demain. Ils ont accepté de me donner quelques heures, quelques jours de leur vie, dans des lieux qui leur parlent. Pour ces gens démesurés, il fallait autre chose que des questions-réponses et un récit biographique, un portrait avec des ruptures, des diagonales et des changements de perspective. Vous écoutez L'Extraordinaire au quotidien, une série de portraits sonores conçus et réalisés par Sarah Roubateau. Il y a des gens qui échappent à toute catégorisation, qui suivent une ligne en courbe et en rhizome, un réseau souterrain qu'on ne voit pas. Élie, il compose, joue et chante des chansons, oui. Pourtant, on dirait auteur-compositeur-interprète qu'on passerait à côté de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Ses chansons se fabriquent dans des ateliers peu communs et se donnent dans des lieux improbables. Elles prennent le temps dont elles ont besoin. Elles peuvent faire 7 minutes ou bien quelques secondes. Elles n'ont presque jamais de refrain. Quand il est chanteur public, Élie écrit des chansons sur mesure pour les gens. Quand il est en spectacle, il raconte l'histoire d'un chanteur qui remonte la rue Oberkampf. Quand il anime les Lavomatic Tours, il offre à qui veut laver une chaussette un espace pour s'exprimer. Quand il anime des ateliers d'écriture pour les femmes d'une cité, il est le médiateur d'une histoire à construire en commun. Quand il va au Kurdistan, il se tait et écoute. Mettre la chanson au service des autres, mettre la parole de chacun au service d'une histoire. Et le temps d'une machine, le temps de se reposer les pieds entre Paris et Brest, Élie propose une autre manière de se rencontrer. Alors forcément, pour faire ce portrait, Élie ne m'a pas proposé d'écouter son disque ou d'aller le voir en spectacle. C'est dans un café, lieu de rencontre et de passage, qu'on s'est posé. Un café bien choisi. On y diffuse du jazz des années 50 et du Bob Dylan. Élie vient souvent écrire ici. Il y a juste assez de bruit de fond pour bercer la pensée. Les fenêtres donnent sur une rue où le regard a de quoi se dégourdir. C'est un café juste, peut-être celui dont parle un de ses textes qui dorment dans son disque dur. Pour Élie, la chanson n'est qu'un prétexte à la rencontre. Parler avec lui de spectacle, de chansons, d'écriture, ce n'est qu'un alibi pour parler d'autre chose, de plus urgent. Un projet de société. Car chaque proposition artistique de Élie est en fait une invitation à vivre autrement notre métier, notre société, nos voisins, nos autres. Partout où il passe, Élie cherche à entretenir la diversité. D'abord celle des manières de chanter, des lieux et des formats de la chanson. Il a marché Paris-Brest en chantant dans des stations-service, des gares, des maisons de retraite, des piscines, des champs. On dira un peu vite que Élie est éclaté, qu'il va dans tous les sens, qu'il est si typique d'une jeunesse qui papillonne. Mais Élie a appris à regarder autrement sa dispersion.
Je crois qu'il y a une espèce de bêtise de l'étiquette, quoi. C'est-à-dire, tu dis que tu es musicien et comédien, et les gens disent « artiste hétéroclite ». Alors vous avez plusieurs casquettes. C'est drôle parce que surtout qu'une fois que tu sors de cette logique et que ça paraît complètement dérisoire, c'est-à-dire, moi ça me pose mais aucun problème d'aller 2 semaines au Kurdistan enregistrer les chanteurs, de revenir, de faire un atelier d'écriture et puis de me remettre à travailler sur ma chaîne YouTube. Tout dépend du regard que tu portes dessus.
Je marche d'un pas régulier, le regard posé sur le paysage.
Certains producteurs, on va dire, ou boîtes de spectacle me reprochent que je fais des choses très différentes et que du coup c'est pas identifié et que du coup je suis dispersé. Quand j'étais plus jeune, je pensais évidemment qu'ils avaient raison. Et puis maintenant, je sais que c'est une manière de voir les choses qui dépend d'une manière de faire ce métier.
J'ai perdu ma route il y a longtemps et je ne veux pas la retrouver.
I'm a long way from my home. Qu'est-ce que c'est le succès ? C'est jouer son spectacle 90 fois dans l'année, dans des salles de tant de places, c'est gagner tant, c'est...
Un matin de mai, l'envie m'est venue d'abord...
J'ai cherché à lutter pendant longtemps contre ma dispersion, et au bout de 10 ans que j'ai lutté avec toutes mes forces, je me suis rendu compte qu'elle était toujours là, qu'elle revenait toujours d'une manière ou d'une autre par la fenêtre, c'est moi. Au bout d'un moment, c'est moi. Donc, il faut arrêter d'avoir honte de ça. Et il faut au contraire s'en servir comme une richesse, quoi. Ce que maintenant je fais.
Tant que mes pieds voudront bien me porter, je continuerai mon voyage. Aujourd'hui, le temps n'a plus d'importance. Je suis mon propre berger.
Moi, j'ai un fil conducteur, c'est que j'écris des mots. Voilà. Ça, c'est mon truc. Je travaille tout le temps avec des mots. Mais au final. Si j'arrive à éditer un livre, j'écris 2 chansons sur mesure, que je fais 30 spectacles, que je fais un voyage chez les Kurdes, et que tous les jours je suis en train de travailler ma matière, parce que c'est quand même ça le but du jeu, de passer le maximum de temps à malaxer la matière que j'ai choisie. Et j'essaye de faire au mieux pour que tout le reste prennent le moins de temps possible, ce qui en ce moment d'ailleurs est l'inverse. En ce moment, je passe beaucoup de temps à faire autre chose que écrire, mais ça m'énerve. C'est pas les gens, c'est le système libéral qui a besoin de ça. Le public est pas si obtus que ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas vrai. Preuve en est, tu vas dans la cité Gagarine, la dernière fois je leur ai lu des poèmes brésiliens qui sont pas faciles d'accès, mais tout de suite elles l'ont prise et elles l'ont mise avec leurs mots et on en a discuté et c'était super. Et c'est pas des femmes qui vont spécialement au spectacle ou qui lisent de la poésie, hein. C'est pas le public, c'est le système économique qui, pour avoir une rentabilité maximum, a besoin d'avoir des tuyaux toujours les mêmes, et dans les tuyaux on passe toujours la même chose. La pensée marchande de la communication, de l'emballage, du marketing, a tellement pénétré profondément le milieu artistique que ça en devient compliqué des fois dans les propositions de faire la différence entre ce qui relève d'une sorte de fabrication artificielle d'un produit et de ce qui relève d'une expression de quelqu'un. Everybody's shouting, which side are you on? Je peux aller dans les salles de théâtre traditionnelles parce que ça me permet de développer une proposition artistique maîtrisée de A à Z. Et après, je trouve important d'en sortir parce que ce lieu du théâtre traditionnel peut être grévé de tas de contraintes de production, de format, de rentabilité, etc. qui font que tu tends vers le produit. Et il faut être vigilant parce qu'en même temps, il n'y a pas de honte à s'adapter à un format qui existe, si tu veux. Mais il faut faire attention. Quand ton expression va ailleurs, il faut accepter qu'elle aille ailleurs.
Un matin de mai, l'envie m'est venue d'abandonner tous mes bagages. J'ai passé la frontière pendant la nuit et je ne l'ai jamais regretté.
I'm a long way from my home. I'm a long way from your home. J'ai des sketchs, je vais les mettre sur internet. J'ai un spectacle, il est sur scène. J'écris des poèmes, ils sont barrés dans un carnet, ils sortiront peut-être jamais. J'ai des nouvelles, j'aimerais bien en faire un recueil. Je fais le Lavomatic Tour, c'est des scènes ouvertes dans les laveries, c'est hors tout, ça n'a pas d'économie, ça n'a rien. Mais ça existe et ça se répand. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous le coude? Je fais les voyages chez les Kurdes, je fais chanteur public, c'est des chansons sur mesure. En fait, chaque idée trouve son format. Et je pense que c'est ça le truc, c'est qu'il faut être libre dans la proposition qu'on fait, donc dans le format, donc dans l'économie. Il y a des choses qui rentrent dans l'économie telle qu'elle existe déjà, alors elle rapporte un peu de sous. Tant mieux, je m'appuie là-dessus, tu vois, là, mon spectacle Rue Oberkampf, il me fait vivre. Et je m'appuie sur ce spectacle pour faire toutes les choses qui soit me font perdre de l'argent, soit ne me font pas vivre. Et puis il y a des trucs, je m'en fous que ça fasse de l'argent. Enfin, tu vois, c'est important de garder toutes les portes ouvertes.
Tant que mes pieds voudront bien me porter, je continuerai mon voyage. Aujourd'hui le temps n'a plus d'importance, je suis mon propre berger.
Nous sommes élevés dans l'idée qu'il faut trouver une voie, un métier, une position sociale, une manière d'exister. Qu'être faiseur de chansons se limiterait à un seul geste, chanter devant les autres sur une scène, dans un micro. Ellie nous montre que pour chaque métier, il y a d'autres manières de faire à inventer. Et qui sait ? C'est peut-être en cultivant la diversité de nos goûts, de nos talents, de nos savoir-faire et des manières de les partager qu'on se sentira entier. Ellie a choisi de rester fidèle à ce qu'il est, plutôt que de changer sa manière d'être pour rentrer dans les normes exigées par son milieu professionnel. Cette liberté de sortir des cases, Ellie la propose à ceux qui viennent dans ses lavomatiques tours. Chaque mois, les gens sont invités à envahir une laverie et ils viennent chanter, réciter un poème, jongler, danser pour le prix d'une chaussette. Ellie me fait penser à une taupe qui s'amuserait à rouvrir des voies bouchées par le système pour mettre en relation les gens et pour réinvestir autrement les lieux. Un travail minuscule et énorme à la fois.
Les lavomatic tours, c'est une scène ouverte qui se refuse à toute catégorisation. N'importe qui vient, c'est sans inscription. À Paris, l'adresse change tout le temps. Je mets l'adresse que sur Internet. Tu vois, il y a plein de trucs qui pourraient faire que ça ne marche pas. Au final, il y a tout le temps du monde, des gens très différents. On pourrait se dire la diversité fait qu'il se passe rien. En fait, il y a une unité de ton dans les lavomatic tours. Comme les participants sont tous différents, ils ne peuvent pas se comparer les uns les autres. Ne pouvant pas se comparer, ils ne sont pas dans l'ego. Et n'étant pas dans l'ego, ils ne sont pas dans la peur. Donc, ils s'écoutent. Donc, il y a une bienveillance. Tu vois, c'est une petite chaîne de paramètres. C'est simple, mais c'est par la différence qu'on obtient l'ouverture. Tu fais une scène ouverte, chanson folk. Tu vas avoir des chanteurs à guitare. Tu vas dire, chouette, j'ai une communauté. Mais sauf que ta communauté, comme on se compare, on a peur de ne pas avoir sa place, puisqu'il y a 10 chanteurs à guitare. Donc tout le monde est dans la peur de ne pas être considéré dans sa singularité. Alors qu'au fond, il y a 10 chanteurs à guitare singuliers, c'est possible ça. Mais il faut créer le climat pour. Dans le Lavomatic Tour, comme tu as un enfant qui chante une chanson qui vient d'écrire, un circassien professionnel qui arrive et qui fait un truc de jongle, un comique qui improvise des vannes en fonction de qui est là, il n'y a rien qui se retaille. L'autre fois, on a un gitan russe qui vient nous chanter un chant de voleur de chevaux. Bonjour. Le fait que personne ne se ressemble, personne ne se compare. Voilà, donc tout le monde s'écoute. C'est simple, mais au final, de dire c'est par la différence qu'on obtient l'ouverture et donc la paix, si tu veux, enfin, c'est beaucoup d'affirmer ça. Ça paraît badin parce que je le tire d'une leçon que dans une laverie, mais politiquement, c'est une vraie proposition.
Voilà qu'en parlant de soirées dans des laveries, on en arrive à parler politique. Pas étonnant, car les gens comme Ellie, qui se mettent à faire leur métier autrement, cherchent un autre modèle de société. Dans ces propositions qui émergent du local, du petit, de l'artisanal, il n'y a ni théoricien ni modèle, seulement des gens qui s'y mettent. Et c'est de toutes ces initiatives individuelles qu'émerge la possibilité d'un demain.
On ne fait pas société sur le plan des idées. D'abord, il faut mettre les gens en relation. On peut très bien être en dialogue hyper subtil avec quelqu'un dont on ne partage pas la langue. Tout le monde qui a fait un voyage le vit. On n'est pas du tout sur le plan des idées, on est sur le plan d'un regard, on pêche ensemble.
Ce matin-là, avant de nous retrouver au café, Ellie m'a invité à un de ses ateliers d'écriture avec les femmes de la cité Gagarine à Ivry.
Salut Karima, tu veux ?
Oui.
Les histoires pour apprécier le corps. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
On s'est vu la semaine dernière, on se revoit. Là, on choisit un obstacle sur la route. N'en mets qu'un parce que sinon on va devoir demander des crédits supplémentaires pour faire un atelier jusqu'à 2018.
Jusqu'à la démolition totale de la cité Gagarine.
Ah bah c'est ça, on va faire. C'est comme voilà. Dans les mille et une nuits.
Moi j'ai une idée.
Alors moi j'ai une autre idée là du coup.
Moi j'ai une idée.
Mimo a un obstacle en tête.
On va voir le roi du Maroc et en fait c'est un peu comme l'Odyssée d'Homère avec Ulysse. Et l'histoire du cyclope quand il le fait.
Grève à l'aéroport des tapis. Au tapis de Rome.
Au moment du départ, on s'aperçoit qu'il manque un tapis. Il manque un tapis. Alors. Ce fameux.
Les tapis volants ne peuvent pas être acheminés jusqu'à Ivry car le roi du Maroc a réquisitionné tous les tapis parce qu'il est frileux des pieds. Là, on vote pour autant qu'on veut, on garde les deux meilleurs et on fait une finale. Sarah, t'as le droit de voter. Et t'as le droit de proposer aussi. Ok, allez, on vote.
Il était une fois.
J'ai assisté à la naissance d'une histoire fabriquée collectivement. Sur ce chantier de l'imaginaire, Ellie est le médiateur qui rétablit l'équilibre pour que chacun ait sa place. Il écoute et note toutes les idées pour construire l'histoire. Puis on passe au vote. On peut voter pour plusieurs propositions et voter pour la sienne. Voter pour n'est pas voter contre. Choisir celui-ci n'est pas renoncer à celui-là. Tiens, sous l'amusement littéraire, encore du politique.
Quelqu'un commence une idée, ça donne une autre idée à quelqu'un qui reprend la phrase et qui la transforme. Au final, on ne sait plus qui a dit quoi. Et ça devient collectif. Donc c'est l'idée qui en sort gagnante, c'est l'histoire en fait. C'est la pensée, le but. C'est pas soi dans la pensée. C'est pas mon petit bout de territoire, de verbe et de propriété intellectuelle. C'est pas ça quoi.
À l'atelier, pour me présenter, je dis « Je fais le portrait de Ellie Guillou » et j'hésite, comme si ma phrase était incomplète. L'une des femmes complète ma phrase, Ellie Guillou et compagnie, et Ellie approuve. Difficile de parler de lui sans parler des gens qu'il rencontre. Ellie écrit pour les autres et avec les autres. Ses chansons sont le témoignage d'une rencontre avec une personne ou avec un peuple. En se laissant guider par cet instinct de la rencontre, Ellie s'est rendue 3 fois au Kurdistan.
J'ai le fantasme du chanteur errant, qui est donc anonyme. Il ne fait que passer. Dans les chroniques que j'écris, mes récits de voyage, je dis pas moi, je dis le voyageur. Il se met en relation avec les gens. Il y a un échange d'une soirée, d'un moment, d'une parole, d'un repas. Et puis, après, ça se dissout et puis on est ailleurs. Moi, j'ai une attitude un peu de proie où je dis, mais qui veut m'emmène là où il veut? Et quand on voyage comme ça, on se retrouve toujours dans les pires endroits avec les gens qui ont le plus besoin d'être écoutés. C'est celui qui a le plus besoin d'être entendu. Ça te dirige vers lui naturellement. Tu te retrouves dans des villes moches, dans des endroits qui ne sont pas dans les guides. Tu vas te retrouver vraiment dans la marge, de la marge, de la marge, de la marge, de la marge. Et ça me plaît. Tu es pas moins actif quand tu écoutes. Tu décides pas, tu prends pas, tu puises pas en fait. Thérèse Barden, un livre où elle dit « Le touriste, c'est celui qui prend le meilleur et qui s'en va. » Et ça, je trouve que c'est une phrase qui résume très bien le rapport consumériste qu'on a à l'ailleurs en ce moment. C'est on va, on voit les beaux monuments, les bons restaurants et on se casse. Mais un pays, c'est tout. Donc tu y vas, si tu veux vraiment un dialogue, tu prends tout. Et c'est pour ça que moi je dis que je voyage comme une proie. C'est-à-dire, je sais jamais où je vais. on me dit mais pourquoi t'es là, je sais jamais répondre. Mais quelque part, la musique traditionnelle, c'est un prétexte. Des fois, ce qui m'intéresse, c'est le mec qui est à côté.
Voilà un artiste qui privilégie la rencontre particulière, le direct. Et pourtant, à chaque fois, il parvient à créer, le temps d'une machine à laver ou d'un verre de thé, un petit, un tout petit nous. Sur la pochette de son album, Ellie n'a pas mis de photo de lui, mais du public en train de le regarder. Le regard qu'il fait naître dans les yeux des autres, c'est ça l'empreinte que Ellie laissera dans le monde.
Tu vois, tout à l'heure, il y avait la blague à l'atelier, Ellie et compagnie. Mais Ellie n'existe pas sans compagnie, mais c'est, si tu veux, c'est dit potache, mais c'est vrai. Ce que je vais chercher quand je fais chanteur public ou quand je fais le voyage ou quand je fais les ateliers d'écriture, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui n'est pas moi ?
Au coin de la rue, il y a des gens qui cultivent l'extraordinaire au quotidien. Hors système, hors normes, ils mènent leur révolution, la nôtre aussi, celle de demain. Ils ont accepté de me donner quelques heures, quelques jours de leur vie, dans des lieux qui leur parlent. Pour ces gens démesurés, il fallait autre chose que des questions-réponses et un récit biographique, un portrait avec des ruptures, des diagonales et des changements de perspective. Vous écoutez L'Extraordinaire au quotidien, une série de portraits sonores conçus et réalisés par Sarah Roubateau.
Quand tu commences à travailler du pain au levain naturel, tu crées la vie, en fait. Nous sommes des créateurs de vie.
Avec Alain, il a suffi d'une poignée de secondes pour savoir que cette rencontre allait se déplier. Pourtant, si je me suis retrouvée dans son fournil ce matin-là, c'est par erreur. J'étais dans un petit village en Picardie et un matin, je pars faire des courses. Je fais quelques boulangeries pour trouver du pain sans farine blanche, en vain. Déçue, je prends la route dans le mauvais sens sans m'en rendre compte, traverse un village et là, je vois une pancarte. Pain au levain et miel du pays. Je braque, je m'arrête, pas de boulangerie, pas d'enseigne. Je passe la grille du jardin, suis les flèches et pousse la porte où il est écrit d'entrée. Et là, je vois un homme enfariné en train de travailler sa pâte. Après 2 minutes d'échange, Alain me propose de venir la semaine d'après faire du pain avec lui. Ne me dites pas oui, parce que les gens disent qu'ils viennent et moi après je les attends. C'est jeudi et vendredi, je commence à 5h. Je repars avec un pain qui ne durcira pas de toute la semaine. Le vendredi, en partant retrouver cet homme avec qui j'ai causé moins de 10 minutes, je prends d'instinct mon enregistreuse. On sait jamais. It's a mystery. Alain est boulanger dans un petit village de Picardie. Il travaille avec du levain naturel. Alain est boulanger comme il a été chimiste et marin. Il suit son idée, fait à sa manière. Il cherche, fouille, invente, explore. Il s'émerveille.
Plaisir en fait de travailler sur du vivant.
Ce que Alain travaille surtout, c'est la diversité. D'abord, la diversité des blés et des levains. Dans le monde de l'industrie agroalimentaire auquel sont soumis les paysans, cultiver la diversité est une résistance. Pourtant, n'est-ce pas là la base des métiers du vivant ?
Ton levain, eh ben, il sera beaucoup plus riche si tu introduis de la biodiversité. Un levain, c'est des bactéries lactiques qui vont cohabiter avec des levures. Vraiment, c'est une cohabitation, quoi. Tu travailles sur la biodiversité. Aujourd'hui, quand tu t'aperçois que les variétés conventionnelles de blé, il y en a 10 à peu près.
C'est, en fait, c'est tous les mêmes blés, quoi, c'est des clones. Alors qu'il y a des milliers de variétés de blé. Avant, on parlait de variétés parce que les gens s'échangeaient des populations de blé. Les gens, avant, c'était plusieurs types de blé qui faisaient pousser dans le champ.
Population de blé, cohabitation des levures, variété des cultures. Des termes qu'on n'utilise plus dans notre société d'abondance. Ce jour-là, au Fournil, nous sommes deux à apprendre à faire du pain. Clémentine, membre d'une association qui met en relation boulangers, meuniers et agriculteurs, m'explique les dessous de la production agricole.
Enfin, les semences classiques qui sont inscrites au catalogue, les agriculteurs sont obligés de les racheter tous les ans. Et donc ces variétés-là, elles sont adaptées à un mode de culture conventionnel. Mais si tu ressèmes plusieurs années ta variété de blé, tu vas avoir une variation génétique qui a une énorme diversité. Et qu'avec ça, tu peux créer des mélanges et chaque agriculteur peut resélectionner les épis les plus beaux dans son champ. Et au bout de plusieurs années, tu vas avoir une population de blé qui est adaptée à ton terrain. Tout ça, c'est des clés d'autonomie, tu vois, des paysans. Un agriculteur qui achète pas d'engrais, aïe.
Cultiver la diversité dans ce qu'on fait, c'est acquérir son autonomie. Peu importe son domaine. C'est ce qui a permis à Alain de rebondir. Car la diversité, il l'a cultivée aussi sur ses chemins de vie. Avant de devenir boulanger, Alain a été marin, peintre, chimiste, apiculteur. Un profil de vie qu'on dirait atypique, indécis, irrégulier. Car comme en agriculture, la diversité des chemins de vie est regardée d'un œil méfiant dans notre société. Les multipotentialistes nous paraissent des gens inconstants. On encourage les jeunes à se spécialiser avant même d'avoir goûté à la diversité de leurs envies et de leur potentiel. Il faut trouver une voie, un métier, une formation le plus tôt possible. Des apprentis pour qui le pain est une deuxième vie, Alain en a reçu quelques-uns. Des jeunes déçus d'une carrière qui ne mise que sur la performance économique et qui un jour décident d'arrêter et de faire du pain.
Donc, parmi les gens qui sont passés ici, un gars qui travaillait sur des instruments financiers pour couvrir les risques d'exportation du gaz et de pétrole au Qatar. Et ben ce mec-là, ras-le-bol, pouf, 35 ans, terminé. En fait, il a vu qu'il avait été employé entre 25 et 35 ans pour se mettre en avant. Et puis quand il est revenu de tout ça, pof, il est terminé. Moi, je m'emmerdais à faire ça. Et hop, boulanger.
Il y a quelque chose d'étonnant chez Alain. Sa manière de parler de ce qui n'a pas marché. Il n'en parle pas comme un échec. Toute sa vie, il a su rebondir, s'adapter, trouver d'autres manières de faire en faisant des tours à 360 degrés et plus.
On s'est lancé dans l'apiculture en fait il y a 3 ans et demi. Et puis on a fait de la gelée royale qu'on n'a pas vendue, qu'on a acheté au pôle parce que la concurrence chinoise, parce qu'on était pour un réseau, parce qu'on avait la technique, on savait produire mais on savait pas vendre. Et donc il fallait rebondir. Et comme on savait faire du pain, ben on a fait du pain. Du jour en lendemain.
Ça fait 2-3 mois qu'on travaille avec des variétés anciennes de blé. J'en étais pas très content parce que les pains étaient plats. Et donc je me suis dit, il faut que je change de méthode. On va travailler avec des méthodes anciennes et ça marche.
Là on a réussi cette année à avoir 2 tonnes de variétés donc de blé ancien. On a commencé avec 30 kilos. On a semé 30 kilos, on a récupéré 300 kilos, on a semé 300 kilos, on a récupéré 2 tonnes.
Au détour de la conversation, Alain me dit une phrase étonnante.
Notre problème, c'est qu'on ne veut pas se développer.
Quand il a commencé à faire du pain, il savait qu'il voulait vendre, bien sûr, mais il savait surtout jusqu'où.
Se dire, moi, avec 250 kilos de pain par semaine, ça me laisse de quoi vivre. Alors forcément, ça ne laisse pas de quoi payer ma BM.
Mais ça lui laisse le temps de se poser devant son poêle chaque jour à midi, de lire, de parler avec son voisin.
Mais si tu t'intéresses au fric, tu fais pas des vies comme, comme toi et moi.
Voilà quelque chose qu'on ne dit pas souvent à qui veut commencer un projet. Il faut trouver la bonne taille, la bonne échelle, pour que notre travail nous permette de vivre, bien sûr, mais surtout qu'il nous laisse vivre.
Moi, si je voulais me développer, bah, j'irais tout de suite à la banque. Avoir un salarié, avoir des dettes, et faire un chiffre d'affaires super. Et puis après, c'est la merde.
Toute sa vie, Alain a su ouvrir les portes, mais aussi les claquer. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours préservé son autonomie. Une autonomie qui est passée par une sobriété des besoins et par un engagement éthique envers tout ce qu'il fait, qu'il appelle œuvrer.
Moi, j'ai une vie comme ça parce que, si tu veux, j'ai toujours œuvré, même quand j'étais salarié. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne me plaisait pas, du jour au lendemain, je partais. C'est pas les patrons qui me viraient. Et j'allais pas me dire, oh, j'ai une maison à payer, machin. Non, non, parce que j'ai jamais eu de maison à payer. Et pouf, je partais, je me barrais. Et donc, j'ai toujours eu des parcours comme ça. C'est impossible de trouver du travail avec ça, avec un CV comme ça. Et quand je me suis aperçu de ça, eh ben, je me suis installé boulanger.
Ouais, tu mélanges. C'est bien. Ça fait du glouglou, c'est normal. C'est du sarrasin. Et Clémentine a travaillé du sec. Et moi, je travaille du petit épeautre. Jaune, noir et un peu crémeux. Là.
Toutes les races.
Voilà, tu vois.
Find a way to come back to scream.
Derrière la répétition des gestes, c'est chaque fois une aventure. On ne sait jamais ce qu'une fournée va donner. Comment les levains auront pris, quelles couleurs auront les nouveaux blés, ce que ça donnerait si on prend plus de temps à la pétrie et moins à la levée. Ça a beau être la même route, chaque traversée est différente.
Si je suis pressé de me lever le jeudi, c'est parce que c'est un peu comme une aventure. Un départ de régate, hein. Je sais pas ce que ça va donner.
S'émerveiller chaque jour des surprises que nous donne notre métier. Le faire en étant le plus autonome possible. Se donner les moyens de pouvoir arrêter quand on veut, pour aller voir ailleurs. Voilà tout ce que j'ai appris en faisant du pain.
Ça n'arrête pas, hein. Punaise. Ils ont bien poussé, hein. C'est un peu comme le jardinier qui ramasse ses carottes, hein. C'est pas génial, tu vois. Ça fait 10 000 que je suis en train de tirer des pains du four. C'est rien que ça, c'est génial. Moi, j'aimerais que ça s'arrête pas. Attention!